Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro au sommaire de cette édition du vendredi 26 avril 2024. Au Burkina Faso, la Voix de l'Amérique et la BBC suspendues pour 2 semaines à la suite de la diffusion d'un rapport de Human Rights Watch faisant état d'exactions dans le nord du pays.
Les médias ont publié des informations d'intérêt général pour la population du Burkina. Et les réprimer ou les censurer pour cela est une attaque grave contre le droit à l'information des populations du pays, surtout celles qui sont particulièrement impactées par cette dégradation sécuritaire.
Réaction à suivre dans un instant de Sadibou Marong, directeur Afrique de Reporters sans frontières. Après le Niger, Washington va retirer ses soldats du Tchad. Au Togo, l'opposition appelle à une participation massive aux élections législatives de lundi. L'Union africaine appelle, elle, à mettre un terme aux hostilités dans le nord de l'Éthiopie. En Ukraine, la Russie frappe le rail pour bloquer les livraisons militaires. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso a ordonné la suspension des programmes des 2 stations de radio internationale, dont la VOA, pour 2 semaines. Cette décision fait suite à la diffusion d'un rapport de Human Rights Watch faisant état d'exactions dans le nord du pays. L'accès aux sites web et aux plateformes numériques de la BBC, de VOA et de Human Rights Watch a été suspendu. Les suspensions de BBC et de VOA sont abusives et constituent une violation flagrante du droit à l'information, a estimé Sadibou Marong, directeur Afrique de Reporters sans frontières. Il a été joint à Dakar par John Lindon.
Pour nous, nous sommes en train, en face de voir comment la situation de la liberté de la presse est en train de se dégrader davantage dans le contexte du Burkina Faso, parce que cela s'est encore illustré avec les suspensions de BBC, de Voice of America, qui pour nous sont abusives et constituent aussi une violation flagrante du droit à l'information. Parce que, à l'analyse, ces médias ont publié des informations d'intérêt général pour la population du Burkina. Et les réprimer ou les censurer, pour cela, est une attaque grave contre le droit à l'information des populations du pays. Et notamment, surtout, celles qui sont particulièrement impactées par cette dégradation sécuritaire.
Les autorités burkinabées déclarent que le traitement du rapport de Human Rights Watch porte atteinte aux principes cardinaux du traitement de l'information. Toutefois, VOA a cherché à recueillir en vain les réactions de plusieurs officiels burkinabés au rapport de Human Rights Watch. Qu'en dites-vous?
Mais les autorités burkinabées se comportent toujours comme ça, d'après ce que nous avons observé ces derniers temps. À chaque fois qu'il y a des violations, ou en tout cas des efforts vraiment consistants des médias à demander leur avis, à demander leur position sur quelque chose, elles ont souvent tendance à ne rien dire et disons à se débiner. Maintenant, quand les médias eux-mêmes publient, elles reviennent à la charge pour essayer de bloquer ou essayer de faire, en tout cas, des communiqués assez dithyrambiques, un peu pour essayer de s'expliquer et d'essayer d'imposer un peu leur narratif. Mais pour nous, fondamentalement, la question des attaques des groupes armés terroristes est la celle des réponses, et souvent très répressives, des armées à ces groupes armés-là, ne peut pas ne pas être couverte par les médias.
Sadibou Marong, directeur Afrique de Reporters sans frontières. Réaction de Voice of America, la Voix de l'Amérique. La VOA reste fidèle à ses reportages sur le Burkina Faso et entend continuer à couvrir pleinement et équitablement les événements dans ce pays, a déclaré John Lipman, le directeur par intérim de la VOA. Il a ajouté, la Voix de l'Amérique adhère strictement au principe d'un journalisme précis, équilibré et complet. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement du Burkina Faso de reconsidérer cette décision troublante. Par ailleurs, le Bureau des droits de l'homme de l'ONU s'est dit préoccupé par cette suspension. Les restrictions à la liberté des médias et à l'espace civique doivent cesser immédiatement. Fin de citation. Le reste de l'actualité en Afrique. Au Togo, les élections législatives et régionales vont avoir lieu lundi, alors que les législateurs viennent de valider une modification de la Constitution faisant passer le régime présidentiel à un régime parlementaire. Le parti d'opposition ANC a appelé ses militants à sortir massivement pour voter. Nathalie Barge.
Lors d'un meeting à Lomé hier, le président du parti d'opposition ANC, Jean-Pierre Fabre, a invité un vote massif, tandis que Francis Pedro Amouzou, candidat du même parti aux législatives, a déclaré devoir décrocher la majorité pour arrêter le désordre à l'Assemblée nationale, selon ses propres termes. Les militants ont été sensibilisés, notamment pour éviter les bulletins nuls. Le 18 avril, 13 partis et organisations de la société civile ont déposé un recours devant la Cour de justice de la CEDEAO pour réclamer le retrait de la nouvelle constitution qui change le régime présidentiel en régime parlementaire. Ce sont les députés qui éliront le chef de l'État pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Le chef du parti vainqueur des élections de lundi sera nommé président du Conseil des ministres qui détiendra les pleins pouvoirs. Dans leur demande à la CEDEAO, les requérants estiment que la réforme constitutionnelle a été faite en l'absence d'un débat public préalable et d'un consensus politique, ce qui porte atteinte à la démocratie et la bonne gouvernance, selon eux. Mercredi, la Cour constitutionnelle du Togo a débouté deux partis d'opposition de leur requête, lui demandant de se prononcer sur cette nouvelle constitution. L'opposition craint que le texte permette au président Fornia Singbe, au pouvoir depuis 19 ans, d'être maintenu à la tête du pays, tandis que son père, Niasingbe Eyadema, a dirigé le Togo pendant près de 38 ans.
L'Union africaine a fait part de sa préoccupation face à l'escalade des tensions entre communautés locales dans le nord de l'Éthiopie. Elle appelle à mettre un terme aux hostilités qui ont déplacé au moins 50 000 personnes selon l'ONU. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Des affrontements armés entre des combattants des régions du Tigré et de l'Amara ont éclaté les 13 et 14 avril dans la ville d'Alamata et les districts voisins de Raya Alamata, Zata et Ofla dans la zone de Raya, revendiquée par les deux régions. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, dit être préoccupé par l'escalade des tensions et appelle toutes les parties à mettre fin aux hostilités. Rattachée administrativement au Tigré dans les années 1990, les zones de Raya dans le sud du Tigré et Olkait dans l'ouest du Tigré sont revendiquées depuis des décennies par l'ethnie Amara. Des milices et forces spéciales de la région de l'Amara y ont pénétré en novembre 2020 quand a éclaté un conflit entre les autorités tigréennes et le gouvernement fédéral et ont installé leur propre administration. Selon un accord de paix signé entre le gouvernement fédéral et le TPLF en novembre 2022 à Pretoria, les forces Amara devaient s'en retirer. Moussa Faki plaide pour le respect de cet accord et pour un dialogue politique pour répondre aux problématiques des territoires contestés.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie a intensifié ses frappes sur le réseau ferroviaire ukrainien pour paralyser les approvisionnements militaires, notamment en matériels occidentaux, en vue d'une nouvelle offensive. C'est ce qu'a déclaré ce vendredi un haut responsable sécuritaire ukrainien, Rosine Monizero.
L'infrastructure ferroviaire est particulièrement vitale en Ukraine, aussi bien pour le transport passager et le commerce que pour l'armée, car depuis le début de l'invasion russe en février 2022, tout le trafic aérien civil y est paralysé. Il s'agit là de mesures classiques avant une offensive d'ampleur attendue ces prochaines semaines, a déclaré sous couvert d'anonymat une source haut placée dans le système sécuritaire ukrainien interrogée sur ces attaques, ajoutant que le but est de paralyser les livraisons, le transport des cargaisons militaires. Dans la seule journée de jeudi, des frappes ont touché ces infrastructures dans trois régions ukrainiennes, dont celle de Donetsk à l'est, divisée par la ligne de front. Trois employés d'une société de chemin de fer ont été tués dans une attaque contre un site ferroviaire. L'armée russe a quant à elle revendiqué vendredi avoir frappé un train avec des armements occidentaux et des équipements militaires dans la localité d'Oudachne, dans la région de Donetsk, ainsi que des troupes et équipements militaires à Balaklia. Ces attaques sur les chemins de fer interviennent au moment où les États-Unis ont, après des mois de paralysie à cause de rivalités politiques internes, repris leur aide militaire à l'Ukraine.
Et le président chinois Xi Jinping a reçu ce vendredi le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken et a appelé les États-Unis à être des partenaires, pas des rivaux, le secrétaire d'État américain jugeant pour sa part que la Chine peut contribuer à empêcher une escalade au Moyen-Orient. Anthony Blinken a par ailleurs déclaré à la presse qu'il avait fait part à la Chine de ses inquiétudes concernant le soutien apporté à la Russie, affirmant que l'invasion de l'Ukraine serait plus difficile sans le soutien de Pékin. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nathalie Barge.
Au Ghana, la réhabilitation des plantations de cacao touchées par le virus de l'œdème des pousses du cacaoyer nécessite 2 milliards de dollars, a annoncé le directeur du Conseil du cacao, Joseph Wan Aido, lors de la conférence mondiale sur le cacao cette semaine à Bruxelles. Les autorités ont pu mobiliser des fonds pour traiter environ 100 000 hectares, mais il en reste encore 500 000 à traiter, soit près de 20% du total des plantations, selon M. Aido. Au Nigeria, le ministre des Mines, Del Alake, a annoncé le retrait de 924 licences minières non utilisées et va proposer ces titres à des investisseurs intéressés. À l'avenir, le gouvernement fédéral sévira contre le racket des licences et les pratiques spéculatives, tout en encourageant les investisseurs sérieux à créer des emplois dans le pays, a déclaré M. Alake. Le Nigeria a récemment décidé d'octroyer des nouveaux permis d'exploitation seulement aux compagnies qui transforment les minerais localement. Des ONG environnementales ont dénoncé la présence accrue des lobbyistes de l'industrie du pétrole aux négociations sur le premier traité contre la pollution plastique cette semaine à Ottawa, soit plus de 40% que lors des discussions au Kenya en novembre. Les entreprises n'ont pas le droit de s'inscrire aux discussions, mais des lobbyistes peuvent rejoindre les délégations d'État. La rencontre d'Ottawa s'achève le 29 avril et les négociateurs se retrouvent en Corée du Sud en fin d'année.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Football avec les demi-finales retour de la Ligue des Champions CAF ce vendredi.
Oui, l'Espérance de Tunis fait face au Mamelodi Sundowns au stade Loftus Versfeld d'Afrique du Sud. Les Tunisiens ont un petit avantage grâce à leur victoire 1-0 à l'aller à Rades. L'Espérance de Tunis détient la meilleure série dans la compétition car n'ayant encaissé aucun but lors de ses 7 derniers matchs en Ligue des Champions. Dans l'autre demi-finale retour, les Congolais du tout-puissant Mazembe se rendent au Caire pour défier Al Ahly après le 0-0 à l'Ali.
Pedro Rocha, désigné président de la Fédération espagnole de football.
Cette désignation intervient au moment où Pedro Rocha est inculpé dans l'affaire de corruption qui secoue la Fédération espagnole de football. Cette affaire concerne les irrégularités dans les contrats signés par la Fédération au cours des 5 dernières années pendant la présidence de Luis Rubiales, dont le juteux contrat conclu pour délocaliser la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Pedro Rocha était le seul candidat aux élections à la présidence de la Fédération qui devait initialement se tenir le 6 mai si plusieurs personnes s'étaient présentées. Cette annonce intervient au lendemain de la décision du gouvernement espagnol de placer sous tutelle la fédération en crise depuis le scandale du baiser forcé de Luis Rubiales, ex-président de l'instance dont Pedro Rocha assurait l'intérim depuis le mois d'août.
Les nouvelles des playoffs NBA, Joel Embiid marque 50 points pour les Sixers.
Après les deux défaites des Sixers au Madison Square Garden, Joel Embiid avait affirmé que Philadelphie était la meilleure équipe et qu'ils allaient redresser la barre à domicile face à New York. Il a joint les actes aux paroles en marquant 50 points, réussissant 13 tirs sur 19, dont 5 sur 7 à 3 points. Victorieux 125-114, les Sixers réduisent ainsi le score à 2-1 et auront l'occasion d'égaliser dimanche. Après la rencontre, Joel Embiid a confirmé qu'il souffre de la maladie de Bell qui se manifeste par une paralysie du nerf facial. Le Magic d'Orlando a aussi battu Cleveland 121-83 pour réduire la marque dans leur série à 2-1. De leur côté, les Los Angeles Lakers se sont inclinés devant Denver, champion en titre 112-105. Les Nuggets mènent désormais 3-0.
Toujours ici en NBA, Stephen Curry nommé joueur décisif de la saison.
Quadruple champion avec les Golden State Warriors, éliminé avant même les playoffs cette année, Stephen Curry a été nommé joueur décisif de la saison jeudi, récompensant ses performances dans les matchs à suspense. Il a été le meilleur joueur de la Ligue pour les points marqués dans les matchs serrés, ceux dans lesquels les équipes avaient moins de 5 points d'écart, en entrant dans les 5 dernières minutes avec 189 points. Il a marqué dans 49,6% des cas dans des situations définies comme décisives, plus que tout autre joueur. Curry a notamment offert la victoire au buzzer à deux reprises sur un panier lointain contre les Phoenix Suns en février et sur un lay-up contre Oklahoma City en Coupe NBA.
Page des sports VOA Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Les États-Unis envisagent de retirer temporairement une partie de leurs troupes du Tchad, une décision qui intervient quelques jours seulement après que Washington a été contraint d'accepter de retirer ses troupes du Niger voisin. Pour une analyse, Alexandrine Olognon a joint Evariste Ngarlem-Toldé, enseignant-chercheur à l'université de N'Djamena.
Vous savez, tout le monde, au mois de mars dernier, à fin mars, je crois, lorsque le président de transition avait reçu des sénateurs américains lors de l'entretien, il était question d'échanger sur les perspectives de l'élection présidentielle et surtout de la situation dramatique des droits humains et de la crise humanitaire qui ravage l'Est du Tchad suite au conflit soudanais. Mais les questions posées par les sénateurs américains avaient vraiment agacé le président de transition qui avait perçu leur démarche comme une ingérence inacceptable dans les affaires tchadiennes. Donc c'est ce qui avait fait que le général du corps aérien Idriss Amin Hamat avait sorti le communiqué pour rappeler à l'attaché de défense américain basé au Tchad de justifier la présence à la base à Dikossé des éléments des forces spéciales américaines.
Est-ce qu'il y a des facteurs spécifiques qui ont motivé cette décision en ce moment précis?
Non. Vous savez qu'aujourd'hui, le Niger a également demandé le départ des troupes américaines du territoire nigérien. Et on avait cru un temps que ces troupes américaines allaient avoir comme point de chute le territoire national tchadien. Alors, est-ce que derrière cette décision, n'a-t-il pas une main française qui pousserait le Tchad à refuser l'arrivée des troupes spéciales américaines sur le territoire? La question reste posée. Toujours est-il que vous parlez de timing, c'est d'abord cette coïncidence avec le départ du Niger, mais aussi l'approche de l'élection présidentielle qui voudrait que les Américains, qui sont très regardants en ce qui concerne les droits de l'homme, puisse ne pas être présent sur le territoire national, surtout les forces spéciales américaines, au moment où la campagne bat son plein et que l'élection présidentielle se rapproche à grands pas.
Et quel pourrait être, selon vous, l'impact de ce retrait immédiat, précisons-le, des troupes américaines, surtout sur la période électorale ?
Électoral, on n'en voit pas tellement, mais vous savez que les forces spéciales américaines jouent un rôle important, autant bien au Sahel qu'au Tchad. Alors, la réaction était quand même soudaine du Tchad qui accueille sur son sol, non pas que les forces américaines, il faut le reconnaître. On a aussi les forces françaises, on a les Hongrois, il paraît même qu'on a les Anglais. Alors, pourquoi demander simplement le départ aujourd'hui des troupes américaines? La question reste posée.
Docteur Evariste Ngarlem-Toldé, enseignant-chercheur à l'université de N'Djamena.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, les femmes entrepreneurs de Goma continuent d'attirer l'attention du monde des affaires grâce à leur créativité et à leur résilience. Déborah Nzarubara, 30 ans, est l'une des pionnières de l'apiculture en Afrique centrale, reconnue à plusieurs reprises dans le monde entier pour la qualité de son miel et sa contribution à la préservation de l'environnement. Davantage avec Zanem Neti Zaidi, le récit est de Yakuba Ouedraogo.
Courageuse et désireuse d'affronter le mythe selon lequel les femmes et les ruches ne peuvent pas cohabiter, Déborah Nzarubara, amoureuse naturelle des abeilles, est devenue une apicultrice de renommée mondiale.
En grandissant, j'aimais les abeilles, mais pas comme métier, juste en le voyant. On disait qu'une femme ne peut pas faire l'apiculture, parce que si elle élève les abeilles vont partir. Parce que même parmi les vieux, quand ils me voyaient venir dans leurs champs, certains même refusaient. Et il y a même ceux qui me disaient, si un jour mon champ est abîmé, donc mes abeilles partent, tu auras affaire à moi. Heureusement, rien n'est arrivé.
Pour Zarubara, la première étape étape pour changer la donne a été de créer une association pour sensibiliser à la valeur environnementale de la protection des abeilles, puis de créer une entreprise autour de ce thème.
J'ai entré dans les richesses, j'ai sorti avec le miel et c'est là même que j'ai compris que je dois en faire réellement une priorité et je vais changer la donne par rapport à ces métiers.
Plus de 1500 apiculteurs ont déjà été formés par Grécom, dont une centaine de femmes comme Rehema Mapendo, qui nourrit aujourd'hui sa famille grâce à l'apiculture.
Pour le moment, j'ai au moins 8 ruches. Je suis en train de récolter aussi du miel. Ça m'aide parce que lorsque nous vendons du miel, ça comble du vide peut-être aux élèves et d'autres besoins de la maison. Pour le moment, on s'habitue maintenant à vivre avec les abeilles. Même si ça pique, on résiste.
Emmanuel Ndimouiza, expert en environnement, rappelle l'importance écologique vitale des abeilles et suggère aux législateurs congolais de légiférer pour protéger cette espèce de plus en plus menacée.
Les abeilles jouent un grand rôle en matière de pollinisation parce que sans les abeilles, en tout cas, on ne peut pas avoir de fruits parce que grâce à cette pollinisation, les abeilles se déplacent de fleur en fleur et permettent la fécondation de plantes. Et aujourd'hui, si les abeilles parvenaient à disparaître, comme disait d'ailleurs Albert Einstein, le monde ne prendra que 4 ans pour que l'humanité puisse se détruire définitivement. C'est pourquoi nous disons on peut mettre même des réglementations de loi en place protégeant les abeilles.
Ces dernières années, Grécom a remporté de nombreux prix continentaux et mondiaux pour ses performances.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
La violence politique au Soudan oblige des milliers de réfugiés, dont beaucoup d'enfants, à se réfugier au Soudan du Sud voisin pour se mettre en sécurité. Mais sur place, ils font face à une autre menace, celle d'un système de santé qui s'effondre, incapable de leur fournir les soins dont ils ont besoin. Reportage de Sheila Pony à Rank, dans l'état du Haut-Nil, au Soudan du Sud.
Des réfugiés fuyant les combats au Soudan arrivent à Jodha, un point de transit entre le Soudan et le Soudan du Sud. Bakita Almohad, 12 ans, a enduré le voyage exténuant de plusieurs jours à pied, peu de temps après avoir été diagnostiqué d'un cancer du sein. Bakita se sent malade aujourd'hui et sa mère, Neema Abdallah, parle en son nom.
Cela a commencé par des éruptions cutanées et des douleurs thoraciques, puis s'est transformé en quelque chose de dur comme une pierre. Sa peau a commencé à tomber et c'était de pire en pire à partir de là. C'est à ce moment-là que nous avons réalisé que c'était quelque chose de grave.
Selon l'organisation humanitaire Save the Children, plus de 600 000 réfugiés soudanais et rapatriés sud-soudanais sont entrés au Soudan du Sud depuis avril dernier. La région est déjà confrontée à une grave crise alimentaire et à un système de santé surchargé. Pour les nouveaux arrivants, l'accueil dans cette ville frontalière est en deçà de leurs attentes. Le ministre de l'Information de l'État du Haut-Nil, Lucas Saadala, a déclaré que le nombre de décès dans le camp était en hausse.
Jusqu'en novembre, j'en ai enregistré 194. Sur 194, il n'y en a plus que deux, une femme et un homme. Mais la plupart d'entre eux sont des enfants.
Le secteur de la santé du pays a subi un choc au début de l'année 2023 lorsque les donateurs internationaux ont réduit leurs contributions. Yolanda Awela-Deng, ministre de la Santé du Soudan du Sud, affirme que son équipe a du mal à combler le déficit avec un budget insuffisant.
Le budget du ministère de la Santé est d'à peine 2% ou même 1,8%. Et même ce 1,8%, nous ne comprenons pas. Et quand nous l'obtenons, nous essayons d'augmenter la quantité de produits de base et le personnel n'est pas suffisant.
Awel Luel Awel, directeur médical de l'hôpital civil de Rank dans l'état du Haut-Nil, a expliqué que les installations médicales locales ne sont pas équipées pour traiter les maladies chroniques.
Les patients atteints du cancer comme le cancer du sein, cancer du col de l'utérus et différentes formes de cancer. D'autres étaient sous chimiothérapie quand elles sont venues ici. Ici, nous ne sommes qu'un hôpital de comté. Il y a des cas que nous ne pouvons pas gérer.
La mère de Bakita, Al-Mouhad, affirme que sa fille survit avec un repas par jour et que son état s'est aggravé depuis son arrivée à Jodha. Certaines familles disent qu'elles resteront au Soudan du Sud, tandis que d'autres, comme Bakita, espèrent que la guerre dans leur pays d'origine prendra bientôt fin afin qu'elles puissent retourner au Soudan et recevoir les soins spécialisés dont elles ont besoin.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
Selon les experts, l'un des défis de la santé en Afrique est le manque de formation du personnel. Pour y remédier, une organisation caritative américaine, Mission to Heal, forme des travailleurs locaux qui s'occupent des patients dans des endroits reculés. Juma Majanga nous parle du village de Ngurunit, dans le nord du Kenya. C'est un récit de John Lindon.
Le centre de santé de Ngurunit, situé dans un village isolé au comté aride de Marsabit, dans le nord du Kenya, est en pleine effervescence. Les habitants se sont rassemblés ici, certains ayant parcouru des dizaines de kilomètres pour obtenir des services médicaux. L'organisation caritative américaine Mission to Heal a fourni des équipements médicaux plus perfectionnés et forme les travailleurs médicaux locaux à leur utilisation. Le docteur Glenn Gilhood, fondateur de Mission to Heal.
Prendre soin des gens dans leur environnement culturel et familial est quelque chose qui va se faire ici. Nous prenons donc les experts qui vivent ici et nous les faisons venir pour leur montrer comment nous pouvons faire les choses.
Le fondateur de Mission to Heal, le Dr Glenn Gilhood, explique que son objectif est de donner aux soignants locaux les connaissances et les compétences nécessaires pour améliorer les services médicaux dans des endroits aussi reculés que celui-ci. Meshak Lekeda est infirmier au centre de santé de Ngurunit.
Ils m'ont même appris à gérer de nouvelles conditions ici et là que je ne connaissais pas auparavant. Et ils m'ont même équipé de nouveaux matériels.
Un rapport publié en 2019 par l'Institut national de la santé des États-Unis révèle que le manque de formation du personnel constitue un problème majeur pour les soins de santé en Afrique. Kristen Alcorn, une bénévole, affirme que Mission to Heal peut aider.
They have the knowledge, but their resources are limited, and so I think that we can help them.
Ils ont les connaissances, mais les ressources sont limitées. Je pense donc que nous pouvons les aider à gérer au mieux les choses et à établir des diagnostics et les meilleurs traitements possibles avec leurs ressources limitées.
Sinahia Kalahele a parcouru plus de 30 kilomètres pour se faire soigner.
Je suis arrivée ici avec beaucoup de douleurs, surtout au niveau de l'abdomen. Les médecins m'ont examiné, m'ont fait deux injections et m'ont donné des médicaments. Et maintenant, je me sens mieux. La douleur a diminué.
Les étudiants en médecine volontaire disent qu'ils apprennent aussi.
Il est évident que la culture et les ressources sont très différentes. Cela a donc été une courbe d'apprentissage abrupte pour comprendre ce que nous pouvons faire et ce que nous devrions faire.
Willem Mitch Poem est étudiant en médecine à l'Université d'Amsterdam.
Pour moi, le plus important était d'utiliser des gants pour la deuxième fois. Chez nous, on utilise les gants et on les jette. Ce n'est pas normal de les utiliser une deuxième fois. Et ils font ça avec tout.
Selon le programme des Nations Unies pour le développement, quelque 408 millions de personnes en Afrique subsaharienne n'ont toujours pas accès aux soins de santé. Mission to Heal affirme avoir formé 3200 travailleurs de la santé sur le continent.
Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com. et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.